Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. Vos réactions sur le procès du 28 septembre 2009 en Guinée. Procès historique qui se tient depuis maintenant 6 mois. Tous les accusés ont comparu. D'ailleurs, ils ont tous plaidé non coupables. La parole est désormais aux victimes. Leurs témoignages sont poignants. Quel bilan dressez-vous depuis l'ouverture de ce procès? On en parle évidemment tous ensemble. 33 9 693 693 70 et on lancera le débat dans une poignée de minutes. Mais d'abord, ce sont les lycéens de l'école du lycée de l'Estourio, Ulysse, la classe de seconde 10, nous rend visite ce matin dans les studios de RFI à l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école dont RFI est partenaire. Et juste avant le journal de Magali Homo, Swana, tu nous posais une question qui était pertinente. Faut-il nécessairement prendre des risques pour bien informer? Frédéric Misselin, la directrice de la rédaction, t'a répondu. Et il me semblait pertinent aussi d'avoir la réponse de Vincent Souriau. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Journaliste au service international de RFI, vous vous êtes rendu à deux reprises sur le terrain ukrainien, dans la région du Donbass. Le Donbass, c'est à l'est du pays. Faut-il prendre nécessairement des risques pour informer nos auditeurs?
Je dirais que ce n'est pas obligatoire, mais que parfois c'est nécessaire, en particulier dans le cas de l'Ukraine, quand on a affaire à un conflit qui, par son ampleur, va bouleverser les équilibres politiques sur le continent européen. Si nous, RFI, médias qui traitent en priorité l'actualité internationale, on n'y va pas, je pense que c'est une faute professionnelle. Maintenant, comment on s'arrange pour limiter les risques? D'abord, on prend des précautions. On n'est pas obligé d'aller sur le front pour rendre compte de la réalité d'une guerre et de ses effets sur la population civile. Il y a plein de choses à raconter sur l'économie, sur les déplacés de guerre, sur les récits de ces gens qui ont tout perdu et qui doivent fuir du jour au lendemain, des gens qui doivent changer de vie, envoyer leur famille à l'étranger parce qu'ils ont perdu leur maison, parce qu'un obus est tombé sur leur domicile. Il y a plein de choses à raconter sans avoir à se rapprocher vraiment à 100% du front, là où c'est le plus dangereux. Deuxièmement, nous, à titre personnel, les journalistes qui partons dans des zones dangereuses, maintenant, on suit des formations très spécialisées, on a des outils pour essayer de limiter les risques, on porte des gilets pare-balles, on prend des ensembles de précautions, on doit être en contact constant avec la rédaction qui doit savoir où on va, ce qu'on fait, qui on voit, quelle voiture on utilise, on donne les plaques d'immatriculation, on donne les numéros de téléphone de nos contacts, on essaye de fournir un maximum d'informations de manière à ce que la rédaction puisse nous localiser et essayer de nous extraire en cas de difficulté.
Et sur le terrain, vous n'êtes jamais seul, Vincent.
On n'est jamais seul, effectivement.
Déjà accompagné par un technicien de la radio,
c'est la première chose.
Et puis d'autres confrères.
Effectivement.
Aussi.
Alors, d'une part, c'est l'un des fondamentaux de ces formations à la sécurité, c'est qu'il vaut être deux dans des situations dangereuses. On est toujours plus intelligent à deux cerveaux que tout seul, c'est la première chose. D'autre part, on essaye de se regrouper effectivement, même si parfois ça peut être un facteur de risque. Si une batterie d'artillerie s'aperçoit qu'il y a un groupement de journalistes occidentaux et que d'un coup l'une des parties au conflit se dit « moi je pense qu'il serait temps d'effacer quelques journalistes de la face du monde », ça peut être dangereux d'avoir un groupement de journalistes sur un terrain de guerre. C'est vrai. Il se trouve quand même que pour nous, c'est plus sécurisant d'être en contact avec d'autres équipes de médias et on a souvent l'habitude de travailler ensemble, d'échanger les infos pour se dire « ok, ne va pas là aujourd'hui, c'est trop dangereux, tu peux passer par tel chemin, attention, ce type n'est pas fiable, ce n'est pas une source valable, etc. » C'est la première chose. La dernière chose, c'est qu'on on a un apport essentiel qui est celui du fixeur, hein, notre guide local, très souvent une personnalité, parfois un journaliste, dans le cas de l'Ukraine, un journaliste ukrainien qui a des contacts sur place et qui va nous ouvrir la voie. C'est un peu nos yeux et nos oreilles. Quand un journaliste occidental arrive sur un terrain étranger, a fortiori quand il ne parle pas la langue locale, il a besoin d'avoir un ancrage et cet ancrage se fait par le biais de ce fixeur qui est, hein, je ne le répéterai jamais assez, essentiel pour notre travail. Sans eux, on ne saurait rien et nos auditeurs ici en France ne pourraient rien comprendre de l'actualité de la guerre en Ukraine.
Swana, est-ce qu'on a répondu à ta question?
Oui.
Est-ce que tu t'y vois plus clair? Bon, bah tant mieux. Merci, on est ravis. Autre question et ce sera la dernière de cette partie spéciale. Mathieu, bonjour.
Bonjour.
On t'écoute.
Alors, dans le contexte de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les deux pays diffusent des informations partiales. De quelle manière collecter et vérifier l'information dans ce contexte pour ne pas prendre de parti?
Vincent Souriau.
Question difficile, mais fondamentale. Je dirais que c'est un peu la même chose que ce qu'on voit à Paris en ce moment, par exemple. Tu vois, on te dit qu'il y a des violences policières exercées par la police contre les manifestants. Le seul moyen d'aller vérifier si c'est vrai, c'est de sortir, d'aller dans la rue, te rendre dans les manifestations pour constater par toi-même si, oui ou non, la police fait un usage disproportionné de la force. Sur un terrain de guerre, c'est exactement la même chose. Le raisonnement est exactement le même. Bien sûr, les risques sont plus importants, mais il ne faut pas oublier les fondamentaux du journalisme qui est, en gros, pour le résumer, un peu comme la phrase de Saint Thomas, « Je ne crois que ce que je vois ». C'est la plus-value du reporter de terrain, c'est d'aller voir ce qu'il se passe pour vérifier si, oui ou non, ce qu'on te raconte est vrai. Maintenant, dans le cadre de la guerre en Ukraine, tu as affaire à de la propagande de guerre, car les intérêts vitaux de l'Ukraine et de la Russie sont en jeu. Donc, ça prend des proportions un peu plus importantes. Mais le travail de fond reste le même. Je te donne un exemple. L'an dernier, lorsque la Russie s'est dégagée de la région de Kiev, les Russes avaient commencé leur plan en se disant « on va pouvoir prendre la ville de Kiev en quelques jours », il se trouve qu'ils ont échoué dans ce plan militaire et ils ont fini par retirer leurs troupes de la région de Kiev. À côté de Kiev, il y a une localité qui s'appelle Boutcha et on s'est rendu compte, lorsque les Russes ont quitté la région de Kiev, qu'à Boutcha, des atrocités avaient été commises et que des civils avaient été tués. Exécution sommaire. À l'époque, on se demandait si ces exécutions avaient été, oui ou non, réalisées par les troupes russes. Là, à ce moment-là, on est dans un intense moment de la guerre, de propagande et de communication, parce qu'on est à l'époque dans un moment de sidération où on ne sait pas exactement qui dit quoi, ce qui est vrai ou ce qui est faux, en particulier dans un contexte extrêmement sensible comme l'est ce conflit aux portes de l'Europe. Ce qu'on a fait avec mon confrère Samy Bourlifa, avec qui j'étais en Ukraine, c'est qu'on est allé à Boutcha. Et là, pour collecter l'info, en fait, on se rend compte que le journalisme est un métier très artisanal. Tu es sur le terrain, tu vas voir. Donc c'était notre métier, on s'est rendu à Boutcha. Effectivement, quand on est allé sur place, on a découvert qu'il y avait effectivement des civils qui avaient été assassinés, il y avait des cadavres présents sur place.
Et votre travail, Vincent, à ce moment-là, c'est notamment de compter, malheureusement, les cadavres.
Voilà, ça fait partie de nos missions de reportage. En fait, il faut prendre des précautions parce que tu ne sais pas si les Ukrainiens disent vrai, tu ne sais pas si les Russes disent vrai. Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu vas à Boutcha, tu te mets en relation avec les fossoyeurs, les gens de la municipalité de Boutcha qui sont chargés de récupérer, de collecter ces cadavres et de les compter. C'est ce qu'on a fait. On s'est rendu auprès du fossoyeur de Boutcha qui mettait ses cadavres dans un camion. Il les comptait. Qu'est-ce qu'on a fait avec mon ami Samy ? On a fait la même chose. On a compté les cadavres un par un pour être sûr que les autorités ukrainiennes ne grossissaient pas les chiffres de ces prétendus massacres commis par les Russes. Et on s'est rendu compte, en l'occurrence, ce jour-là, qu'il disait la vérité, il y avait une trentaine de cadavres dans ce camion, on a fait le compte, c'était vrai. On est allé visiter les fosses communes, ils avaient creusé des fosses communes derrière une église pour mettre ces cadavres de civils. On est allé voir si oui ou non il y avait bien des cadavres à l'intérieur, quels étaient l'état de ces cadavres, etc. C'est pas forcément un métier, tu vois, sur le papier très ragoûtant, mais en réalité tu es obligé de te confronter à ce genre de réalité pour que ton info soit vérifiée.
C'était passionnant, Vincent Souriau. Mathieu, on a répondu à ta question ?
Oui, merci beaucoup.
Bah voilà, c'était la dernière question de cette première partie spéciale. Merci vraiment à tous les élèves, aux 32, ils étaient 32 ce matin dans les studios, venant du lycée de Le Souriau, Les Souriaux aux Ulis en région parisienne. Bon retour, vous continuez à visiter évidemment les studios de RFI, la maison, la rédaction. On se fait un plaisir évidemment de vous accompagner tout au long de la journée. Merci Vincent.
Merci à vous.
Et je remercie tous les confrères qui sont venus à ce micro répondre donc aux questions des lycéens. Place maintenant à notre débat sur le procès qui tient en haleine toute la Guinée depuis maintenant 6 mois, le procès du massacre du 28 septembre 2009. Tous les co-accusés ont comparu devant la cour criminelle, comme Moussa Dadis Camara, qui à l'époque des faits était le chef de la junte militaire. Lui, à la barre, il s'est dit victime d'un complot. Aboubacar Diakité Ditoumba a lui aussi été très suivi par les Guinéens, puisque les audiences, je le rappelle, sont diffusées à la télévision. Toumba, aide de camp du capitaine Dadis. Lui, il a accusé l'ancien putschiste d'avoir été le donneur d'ordre. Et depuis maintenant 3-4 semaines, ce sont les victimes qui témoignent. 10 d'entre elles ont été appelées à la barre pour raconter leur part de vérité. Des témoignages vraiment sanglants qui font froid dans le dos. Que retenez-vous pour l'instant de ce procès historique ? Est-il d'ailleurs à la hauteur de vos attentes ? On va en parler ensemble et on commence avec Anthony. Soyez le bienvenu. Bonjour Anthony.
Bonjour Anne,
et merci.
Bonjour à tous vos millions d'auditeurs.
Et merci d'avoir patienté au standard. Vous êtes à Conakry et vous disiez hors antenne, c'est une fierté que ce procès puisse se tenir dans mon pays.
C'est une fierté nationale, en ce sens que quand il y a eu ces événements et les jours qui ont suivi, on a pensé, parce que c'est ce qui se disait de l'autre côté, que le procès doit être transporté pour que ça soit jugé au niveau de la CPI. Ça a été grâce à l'arrivée du CNRD au pouvoir qu'ils en ont fait une priorité et finalement le procès a été vraiment entamé à la date du 28 septembre
dernier.
2020.
Oui. Vous diriez comme le ministre de la Justice, Alphonse Charles-White, cette semaine sur RFI, que ce procès illustre la volonté des autorités de la transition de lutter contre l'impunité.
Lutter contre l'impunité, ça c'est aussi le sens de la rectification qui est en train de passer par là, qui est l'une des valeurs que le CNRD est en train de prôner. Donc, et encore une fois, on avait pensé que c'était une impossibilité, et même, vous vous en souvenez, avant même la tenue de ce procès, quand ça a été annoncé, il y avait eu quand même beaucoup de Guinéens qui ont crié pour dire que non, des militaires ne font pas juger des militaires, mais aujourd'hui, nous, Guinéens, on est rassurés par la volonté qui s'en est suivie et la sérénité de la Cour qui est quand même en train de...
Ah, on a perdu Anthony. En tout cas, rassuré, confiant par le déroulement de ce procès. Et je me souviens effectivement que vous étiez nombreux au moment de l'ouverture du procès il y a 6 mois à nous dire « Mais comment des militaires peuvent-ils juger d'autres militaires ?» Puisque, rappelons-le, ce sont des militaires qui sont accusés d'avoir tué 156 personnes et violé une centaine de femmes dans le grand stade de Conakry le 28 septembre 2009. Bonjour Abdoul.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la radio internationale.
Comment vivez-vous au jour le jour ce procès? Que retenez-vous des audiences?
Bon, l'opinion guinéenne en majorité reste mitigée par rapport à l'explication de Toumba Diakité et à l'explication de Dadis.
Oui.
On a du mal réellement à identifier qui a tort, qui a raison. Et là, c'est la Cour, à la fin du compte, qui nous dira réellement qui a tort, qui a raison. Et surtout... Et surtout, ce qui nous a beaucoup marqué dans ce procès, c'est de voir un ancien président, un ancien homme fort, qui était le président de CNDD à l'époque,
Moussa Dadis Camara,
qui est soumis à la justice, comme pour dire, nul n'est au-dessus de la loi, et quel que soit ce que tu vas commettre comme des exactions, tu seras un jour appelé à rendre compte. Et c'est ce qui nous a beaucoup marqué, et surtout des témoignages, comme le témoignage d'un certain... Baouri,
oui,
est venu avec une grande sérénité.
Baouri il a été appelé à la barre la semaine dernière. Il était le président de l'organisation de la manifestation et effectivement son témoignage a été très très suivi par les Guinéens. Un mot tout de même sur la comparution de Moussa Dadis Camara. Vous disiez c'était une première, personne ne s'attendait qu'un ancien président rende des comptes à la justice de son pays. Comment avez-vous trouvé la défense de Moussa Dadis Camara? Lui n'a cessé de dire: ce massacre, c'est un complot qui a été organisé contre moi.
Oui, il en a sciemment parlé, mais nous, ce que je vous disais tout à l'heure, l'opinion reste partagée, puisque quand vous écoutez les Guinéens, d'autres disent que, oui, comme lorsque Moussa Dadis Camara a compris que le pouvoir était en train de quitter dans ses mains, il a trouvé des moyens pour se maintenir. C'est pourquoi d'ailleurs, la déclaration dans laquelle il avait tenu à dire que je peux me ôter de la tenue militaire pour me présenter, alors un président ne devrait pas dire ça.
Ouais. Abdoul, merci infiniment. Il y a Alassane également qui souhaite revenir sur l'audience de Moussa Dadis Camara. Bonjour Alassane.
Bonjour Juan, bonjour à tous les fidèles auditeurs de cette émission qui nous passionne tous les jours.
Merci à vous. En tout cas, s'il y a bien un sujet qui passionne les Guinéens, c'est ce procès qui se tient depuis maintenant 6 mois. Que retiendrez-vous des propos de Moussa Dadis Camara devant la justice de son pays?
Bon, Juan, en fait, le procès du 28 septembre nous a édifiés. Dans la mesure où, au début, tous les Guinéens pensaient que c'est Toumba Diakité qui était le pivot du massacre du 28 septembre. Mais depuis l'ouverture du procès, avec la comparution de Toumba Diakité, nous nous sommes quand même rendus compte que même si Toumba avait sa part de responsabilité dans le massacre du 28 septembre, mais il n'est pas le pivot.
Quant à David, il n'est pas le pivot. Camara, il n'est pas le pivot. En tout cas, c'est votre interprétation des propos. C'est vrai que Toumba, qui est donc l'ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara, a clairement dit à la barre qu'il avait reçu l'ordre de Moussa Dadis Camara d'aller réprimer les manifestants. Et Moussa Dadis Camara, lui, a dit que c'est Toumba qui a perpétré ce massacre. Donc nous avons deux versions qui s'opposent. Ce n'est pas à nous de dire évidemment qui a tort ou qui a raison, mais en tout cas, vous pensez que l'audience avec de Moussa Dadis et de Toumba a permis d'en savoir un peu plus sur les événements de ce jour-là ?
Tout à fait, Monsieur Wan, quand j'ai dit que je parle personnellement, je suis pas là pour donner un jugement définitif. Donc, quand vous prenez la comparaison de Moussa Dadis Camara, moi, je pense que Moussa Dadis Camara, il est incohérent dans toutes ses déclarations, parce que quand il parle du complot monté contre lui, faut pas qu'il oublie aussi avec Toumba Diakité, ils ont monté un autre complot aussi contre Toumba, vouloir taire l'affaire du 28 septembre, mais Dieu n'a pas voulu, parce que leur intention, c'était de taire Toumba, de l'effacer, et pour qu'on puisse mettre fin au dossier du 28
septembre. En tout cas, c'est votre analyse à vous, c'est votre interprétation, vous avez le droit bien évidemment de l'exprimer, et c'est le principe de cette émission. Chacun dresse son propre bilan de ces 6 premiers mois, procès suivi jour après jour par les Guinéens. Je rappelle que la quasi-totalité des audiences jusqu'à présent ont été diffusées à la télévision, je dis la quasi-totalité car une partie, et ce sont notamment les témoignages, les femmes qui demandent à prendre la parole à huis clos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de journaliste, pas de caméra, rien n'est filmé, rien n'est enregistré. Et justement, s'il y a bien un témoignage, et si j'en crois vos commentaires, qui a suscité une vive émotion, c'est celui de Fatouma Tabari, femme qui a témoigné la semaine dernière, victime de violences sexuelles. Bonjour Lamine.
Bonjour Juan.
Vous avez été bouleversé par le témoignage de Fatouma Tabari.
Justement, voilà, parce que Juan, bien avant l'ouverture de ce procès, comme l'a dit mon prédécesseur, tout le monde vraiment disait que c'était Toumba, qui était le commanditaire vraiment de ce massacre. Mais le témoignage de Monsieur Barry, de Madame Barry, a, s'il faut le dire, blanchi. Commandant Toumba dans cette affaire, ce qui a été des renchéris hein, les derniers jours par Baouri et puis également par François Lounsenifal, oui, par rapport à ce qu'a fait voilà, Toumba lors de ce massacre, parce que c'est lui qui est allé non seulement sauver les leaders politiques, mais aussi il a sauvé certaines victimes qui étaient vraiment victimes d'atrocités.
Et c'est ce qu'a raconté Fatoumata Barry, qui dans un premier temps, évidemment, parce que par la force des choses, elle était obligée de raconter ce qu'elle-même a dû subir ce 28 septembre 2009 dans ce stade, et ensuite elle a raconté effectivement avoir vu Toumba. Il est arrivé, et quand il est arrivé, il a demandé aux militaires qui étaient en train de commettre des exactions, mais pourquoi faites-vous cela? Qui vous a donné l'ordre de faire ça? Un des militaires a alors répondu, c'est un ordre, on a reçu l'ordre de tuer des manifestants, et effectivement, d'après Fatouma Tabari, c'est Toumba qui a, d'une certaine façon, sauvé la vie de cette femme, même si, il faut le rappeler pour être précis, Lamine, et je vous donne la parole et ce sera votre dernier mot, on a entendu ensuite les avocats de la défense accuser cette femme d'avoir fabriqué un témoignage.
Bah, ça se comprend. Depuis le début de ce procès, les avocats de la défense ont formé un bloc contre vraiment Toumba. On l'a compris, et voilà, et à travers des mots qui ont été donnés à leurs clients. Je pense par exemple à Marcel, oui, qui garde le silence, qui n'a pas vraiment, oui, reconnu au moins un fait qui lui est reproché dans ce procès.
Effectivement, lui, comme tous les autres, hein, d'ailleurs, nie la moindre responsabilité dans ce massacre. Merci à tous, c'était court, mais c'était passionnant. On revient demain, 8h10 TU.
Crédit Express de Banque Atlantique vous a proposé appel sur l'actualité. Banque Atlantique. Grandir ensemble.
Bonjour Raphaël Constant.
Bonjour Juan.
Dans 10 minutes, priorité santé. Et il sera question des genoux.
Et oui, arthrose, arthrite inflammatoire, entorse, traumatisme. Les atteintes du genou sont nombreuses et peuvent toucher tout le monde, Juan, à tous les âges. Des rhumatismes dus au vieillissement de l'articulation aux accidents des sportifs. On en parle dans 10 minutes et on attend toutes vos questions, vos témoignages au 33 1 84 22 75 75 ou sur la page Facebook de l'émission.
Voilà, et c'est à suivre évidemment juste après le journal.